Yolilo.
Donc, c'est encore cette tradition qui reste.
Il est une chose qui m'a frappée aussi dans ce texte, c'est la façon dont c'est la mère qui organise la vie des femmes. C'est la mère, j'imagine, c'est la belle-mère, en fait, pour la plupart de ces femmes, puisqu'elles sont les épouses des fils. Et alors, peut-être vous pourriez nous parler de cette structure de la famille dans laquelle arrivent ces femmes qui ont quitté leur village, arrivent dans une autre famille, dans un autre village, et elles arrivent dans une famille où il y a l'air d'avoir une structure assez précise, une organisation bien précise. Sanié.
Oui. Bon... Quand je parle de ce problème, je vais d'abord chercher les racines donc, de cette tradition. Et puis je peux dire que ça vient malheureusement de Kanun de l'Egdugajini, et lequel malheureusement ça, on le trouve de jour d'aujourd'hui. Donc plutôt pour, dans les campagnes, dans les villages.
Donc ce que vous venez de nous citer, c'est ce qu'on pourrait appeler un droit coutumier qui précise les tâches des femmes, c'est ça?
Voilà, c'est ça. La jeune mariée, donc, elle se marie, et puis je peux dire qu'elle a très peu de droits. Donc elle n'a pas le droit de parler, de donner son avis et tout ça donc, dans la maison, à la campagne. Hein. Là, il parle, comme vous avez dit, la femme plus âgée, donc la belle-mère. Si c'est pas la belle-mère, donc ça va être la grande belle-sœur qu'elle parle. Mais elle n'a pas le droit de parler, de donner son idée, son avis, la plus jeune, de jeune mariée, donc comme on appelle nous, c'est, voilà.
Donc c'est pas un hasard que ce soit dans la légende la troisième bru, la fille voilà, plus jeune des fils qui se fait finalement emmurer.
Oui, oui, tout à fait.
Et les sœurs, si sœurs il y a, quel rapport ont-elles avec les brus, enfin avec les épouses de leurs frères et avec leur mère?
Je sais pas tout à fait.
Les sœurs de la famille,
oui, oui.
Si elles sont encore dans la famille, donc oui. Si elles ne sont pas encore mariées, donc ont quitté leur famille, quelle place ont-elles dans la famille?
Mais par rapport des jeunes mariés, donc de nuncés, ils sont plus privilégiés. Donc elles se croient comme chez elles, elles ont le droit presque de tout, mais pas la jeune mariée. Donc je peux dire que malheureusement, le jour d'aujourd'hui, c'est triste de connaître ces réalités, mais c'est comme ça.
Sanié, comment dans les familles, les femmes alors se partagent-elles pardon, les tâches? Est-ce que chaque femme, de par les droits qu'elle a de parler ou de ne pas parler, a des tâches particulières à effectuer, du travail particulier à effectuer dans la famille?
Oui, s'ils sont deux, par exemple, à la maison, ou bien si la belle-mère, elle est costaud, elle est encore vitale, comme on dit. Elle s'occupe plutôt pour préparer à manger et attendre la visite, rester avec eux, discuter, tout ça. Mais les autres travaux à la maison, par exemple le ménage, faire la lessive, la vaisselle et tout ça, ils partagent s'ils ont deux. Par exemple, une semaine, elle fait le ménage. Donc l'autre semaine, elle fait... la lessive, elle aide à sa belle-mère pour préparer à manger et tout ça. Donc il y a un système, il y a une organisation, depuis au début comme ça, depuis après le mariage de la jeune mariée. Maintenant, il organise la vie, le travail et tout ça comme il faut faire. Donc soit ils font 3 jours et puis ils changent le travail, soit ils font une semaine. Donc, s'ils sont nombreux, ils ont de la chance d'avoir 3 jours ou bien une semaine de congé. Ils font presque rien. Ils s'occupent plutôt de ses enfants et de son mari. Mais ils n'ont pas d'autres obligations. Voilà.
Mais s'il n'y a que 2 frères, il n'y a que 2 femmes, elles doivent se partager à elles deux seules. Tout
ils
n'ont
pas
travail.
De congé. Voilà.
Est-ce que dans les villes, ce système, on le retrouve ou est-ce que le développement urbain a supprimé complètement cette organisation sociale ?
Le développement urbain a cassé la famille albanaise parce qu'on ne peut pas avoir les mêmes maisons en ville. On est dans des appartements la plupart du temps. Donc les gens qui vivent en ville, vraiment en ville et pas dans la banlieue, ont cassé la famille et les couples vivent séparés. Donc ils ne sont plus assujettis à cette famille, et donc la noussée, la jeune mariée, n'est plus tributaire de l'autorité de sa belle-mère, en fait. Mais en dehors des villes, il y a une partie banlieue, en Kosovo c'est très marqué, où il y a des gens qui essayent de se rapprocher de la ville, mais qui recréent complètement le statut du village quand même. On retrouve quand même des maisons complètes, et là, alors le même système est encore en vigueur.
La ville principale, ou je ne sais pas si on dit la capitale de la Kosovo, c'est Pristina. C'est une grande ville ?
Oui, c'est quand même une grande ville.
Combien d'habitants à peu près ? C'est Genève ?
Plus de 100 000 en tout cas.
Ouais,
150 000.
150 000, ouais. 200 000 environ. Ouais.
Parce que maintenant, il y a un grand exode rural. Alors, c'est très difficile de savoir exactement la population. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent s'ajouter à la circonférence de la ville.
Alors, le texte suivant que nous nous proposons de vous lire... C'est un texte qui a été écrit par un écrivain, je ne sais pas si je prononce juste, sûrement pas, Gisèle, si vous pouvez regarder, Migjeni.
Voilà.
Et qui est né à, mon Dieu, tous ces noms,
Skodër.
Il est de religion albanaise et cet écrivain qui a écrit dans les... Qui est de religion orthodoxe. Et cet écrivain qui a écrit dans les années 30 est en fait un personnage assez particulier puisque déjà à son époque, il n'a cessé de se révolter contre les traditions sociales et notamment bien évidemment celles qui enferment les femmes à la maison dans les conditions que nous avons pour l'instant effleurées. Alors je vais vous lire un tout petit extrait d'une chronique d'une ville du Nord qu'il a écrit et qui est publiée aux éditions Fayard. Pour que vous fassiez une idée de à propos de quoi il s'élève. Nash, avec le sourire, essaye de soutirer à sa sœur quelque chose, mais en vain. En ressortant, il croit comprendre la cause de ses larmes. Il se souvient de son regard de la veille. Il est tenté de revenir sur ses pas, mais il n'ignore pas qu'elle se sentira trop gênée pour lui avouer quoi que ce soit. La pudeur, surtout la pudeur des jeunes fiancées, est un maillon de plus dans la chaîne qui entrave la vie de nos filles. Et comment une jeune fille n'aurait-elle pas honte d'évoquer son futur mariage quand elle sait qu'elle ne va chez son mari que pour partager sa couche ? Elle ne peut imaginer aucun autre rapport avec l'homme qu'elle va épouser, puisqu'elle n'a pas échangé un traître mot avec lui. La honte, comment n'aurait-elle pas honte ? Cette honte qui empêche d'élever la voix pour se défendre contre ceux qui s'attachent à faire malgré vous votre bonheur. Je n'en veux pas. Non. Non, jusqu'à présent, jamais ces mots n'ont été prononcés par une fiancée de par chez nous. Nash décide de dire à son père qu'il n'approuve pas le mariage de sa sœur. Le père. Crois-tu qu'on puisse trouver mieux ? Pourvu que tes autres sœurs aient la même chance. Il est de bonne famille, riche, travailleur. Il n'y a pas de meilleure partie dans la ville. Mais père, de nos jours, les filles regardent avant tout à quoi ressemble leur futur époux. On ne va tout de même pas lui demander son avis. Est-elle à même de juger ? Est-ce vraiment tellement rarissime pour les années 30 de s'opposer à la situation de la femme ? Gisèle, comme l'a fait cet écrivain.
Oui, c'était quand même courageux, parce qu'il s'est quand même opposé à toute une société patriarcale. Il avait lui-même une vie qui était fortement critiquée, notamment il était très proche de sa sœur, justement, lui-même, un peu trop selon certaines personnes. Mais je veux dire, c'était quand même très très courageux, parce que les écrivains de cette époque, des années 30, donc, souvent glorifiaient la nation, essayaient de renforcer l'unité du peuple albanais, mais ne se souciaient pas tous, même assez peu, se souciaient de la condition de la femme. C'était un peu le dernier des soucis à l'époque.
Alors ce texte met en scène une des choses que subit très gravement la femme en Kosovo, c'est les mariages arrangés. Puisqu'on dit on a choisi le meilleur parti, mais le meilleur parti est, comme vous le spécifiez tout à l'heure, qui arrange la rencontre d'une famille avec une autre et qui crée les liens entre une famille ou un village, une région et une autre. Alors peut-être est-ce qu'on pourrait parler un petit peu plus de ces mariages arrangés.
Oui. Notre écrivain Mijeni décrit très bien que malheureusement, il avait beaucoup, voire on peut dire que tous les mariages se passent ainsi. Nos parents, par exemple, ils se sont mariés dans la même façon. C'est leurs parents qui sont décidés pour son mariage. Alors, aujourd'hui, c'est un peu autre. Bon, moi, personnellement, c'est moi-même que j'ai choisi mon mari.
Donc, est-ce que vous êtes une exception en Kosovo?
Non, parce que bon, où j'habite, il y a plusieurs qui sont mariés, donc les générations avant moi qui sont choisies elles-mêmes son futur époux. Mais malheureusement, il y a encore des cas, surtout dans les campagnes, où les parents ils décident pour son mariage, pour son donc oui, époux, futur époux. Bon,
oui, on peut dire que cette coutume remonte de nouveau au droit coutumier, le canon de l'Ekdoukadjine, parce qu'on trouve écrit dans le canon pas de mariage sans intermédiaire. Et on sait que c'était souvent un parent de la jeune fille, toujours un homme, qui était chargé de la transaction. Observons bien le mot transaction.
Donc il y a un avantage économique.
Pas forcément, mais disons, ça peut être... une jeune femme peut être prise aussi pour soulager les travaux de la belle-mère. C'est pas forcément économique, ça peut être au niveau du travail. Mais disons, c'est vrai que pendant des années et des siècles, la femme était quand même considérée comme une mineure. Donc, elle n'avait pas vraiment de droit personnel. Et on pouvait, pas vraiment comme un objet, c'est un peu dur de dire ça. Mais il y avait des familles, très dans les montagnes reculées, qui non pas achetaient, mais faisaient des contrats, plus ou moins, pour prendre une épouse, etc. Et maintenant, c'est quand même de moins en moins courant, mais dans les villages, je dirais qu'il y a bien 50% des gens, 60% qui se marient encore comme ça.
Et puis, bien évidemment, si la femme essaye de dire « je ne veux pas », comme le texte l'évoquait, elle n'a aucune chance, j'imagine. Que se passe-t-il si une femme essayait de s'opposer à un mariage arrangé?
Bon, si les parents ne veulent pas écouter la fille de ce qu'elle veut, si elle n'aime pas son fiancé, alors ce qui arrive, c'est elle est... comme on dit, plusieurs cas, elle est condamnée, kidnappée par son fiancé, voilà. Mmh. Et puis ça se finit comme ça. Mais les parents, bon, ils ont vu que ça va pas comme ça, pour pas poser des problèmes, quand même, ils font parler, donc ils font... une intermédiaire d'une sœur ou bien d'une cousine. Si elle veut fiancer vraiment, il décide de fiancer avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Donc c'est toujours ou bien sa mère ou bien sa sœur qu'elle doit...
Parlementer,
voilà. Si elle est d'accord ou pas. Donc si elle n'est pas d'accord, ça arrive très très souvent... qu'elle va avec peut-être quelqu'un qu'elle connaissait déjà avant. Elle voulait se marier avant, mais les parents, ils n'étaient pas d'accord. Et puis ça se finit comme ça. Elle quitte la maison, comme on dit.
Voilà.
Mais il y a, on parle par exemple, je ne sais pas si c'est surtout propre à l'Albanie et pas forcément à la Kosovo, mais on parle de la vendetta, c'est-à-dire cette façon de régler les comptes au couteau comme dans d'autres régions d'Europe. Est-ce qu'on peut imaginer que... comme il n'y a pas eu respect des promesses entre les familles, dans un cas comme celui-là, tout à coup arrive, on tiendrait pour responsable la femme de, bain de sang entre les deux familles, parce qu'on va régler ça au couteau.
Oui, mais disons, les vendettas, quand même, apparaissaient rarement pour des questions de fiançailles. Cela pouvait se faire, mais c'était quand même très très rare, puisque la femme était exclue des vendettas. C'est toujours une affaire d'homme. Donc les vendettas arrivent plus souvent pour des crimes ou des choses comme ça, et ensuite ça n'en finit plus, on venge éternellement. Mais il faut bien dire quand même ça, que la femme était exclue des vengeances.
Oui, mais elle pouvait être la cause de la vengeance, non?
Oui, elle pouvait l'être. Notamment si elle trompait son mari, par exemple. Si elle trompait son mari, le canon disait qu'elle devait être condamnée à mort, elle et son fiancé, enfin son amant, surtout si cela s'est déroulé à l'intérieur de la maison familiale.
Voilà, si c'est de l'autre côté du trottoir, c'est pas la même chose. Voilà.
Enfin, il y en avait un des deux, l'amant était tué, mais pas forcément la femme, si ça se passait chez l'amant, par exemple. C'était un droit comme ça.
Mais d'ailleurs, il y a une tradition à ce sujet-là, lors du jour du mariage, en fait, non, Gisèle? Où on glisse dans la robe
alors,
de la mariée.
Oui, alors bon, c'est une tradition qui est totalement perdue, en tout cas actuellement, que sauf, tant mieux. Parce que, si une femme trompait son mari, elle devait périr. Et la balle qui devait la tuer, donc dans le canoun, était mise par la famille dans la corbeille de mariage ou dans l'ourlet de la robe de mariée.
Parce que la famille de la jeune fille.
Voilà, bien sûr, de la jeune fille, parce que c'était l'autorité paternelle qui donnait le droit au mari de tuer la fille si elle violait, si elle trompait son mari. Voilà.
Mais il s'avère que cette coutume des mariages arrangés, si Gisèle et Sani viennent le dire, elle existe encore souvent dans les campagnes, en tout cas à 60% des cas. Parfois, cette tradition est respectée dans des conditions assez absurdes, puisque nous allons vous lire un tout court extrait d'un texte qui raconte comment une femme peut mourir du respect ridicule d'une convention passée entre une famille, entre deux familles. Il se fit un silence de mort parmi tous les invités à la noce. Le jour déclinait. La terre était toute blanche et gelée. Des aiguilles de glace pendaient des rebords des vieux toits presque jusqu'au sol. Comment pouvait-on se rendre jusqu'à Tsurtsun au-delà de trois montagnes? Les visages des jeunes hommes étaient figés et maussades. Le seul signe qui distinguait ce jour de noce d'un jour de deuil, c'était le chant des femmes, chanté par des filets de voix aiguës. Le pauvre père essaya en vain de retenir ses larmes. Ça n'avait vraiment pas l'air d'une noce, mais plutôt d'une mort. Dans la cour, on avait amené les mulets près de l'escalier. Le moment était donc finalement venu. C'était vraiment trop sauvage et absurde. Mais on remuerait plutôt une montagne que de faire changer d'avis ces hommes-là. Là-bas, à Tsurtsun, situé au-delà des trois montagnes, on avait tout préparé pour la noce et la mariée devait absolument s'y rendre. Max Harsali s'apprêtait à se comporter comme l'exigeait le droit coutumier, emmener la mariée de l'autre côté des trois montagnes. La mariée, Aïdée, gisait sur son lit, souffrante depuis 3 mois. Cette noce avait été préparée dans une atmosphère fiévreuse. Le bruit courait, comme parvenu des profondeurs de la terre, qu'elle n'aimait pas son fiancé et qu'un jeune homme la courtisait, étant tombé amoureux d'elle. On l'avait relevée de son lit de souffrance et on l'emmènerait, coûte que coûte, où elle devait se rendre. On fit sortir Aïdée dans la cour. Le père fit signe de la monter sur la mule. Son visage pâlit encore. Les trois malheureuses qui venaient chanter eurent la voix coupée et pendant quelques moments, dans la cour remplie d'invités de noces, régna un silence funeste, pareil à celui qui accompagne la sortie du cercueil d'une maison. Les frères réussirent à faire monter sur le mulet le corps inerte d'Aïdée. Puissent-ils vieillir ensemble et avoir beaucoup d'enfants? Dit Machar Sali. Je lui fis signe d'approcher de moi sa tête. Laisse-la encore une semaine. Tu peux arranger cette affaire avec nos invités. Tu ne vois pas dans quel état elle est? Ne te mêle pas de ça, instituteur. Ces affaires-là s'arrangent par le fusil. Va-t'en. Ce n'était pas une simple menace d'homme, mais celle d'un monde dédaigneux. Oui, vous auriez plutôt arrêté la terre de tourner sur elle-même que de persuader ces gens à renoncer à ce dont ils avaient été chargés d'exécuter. La caravane des invités à la noce se mit en route sous la neige qui avait commencé à tomber. Ils avaient franchi l'école de la montagne de Balek et dévalaient la côte juste lorsque Haïdé fut sur le point de défaillir. Son frère s'écria « Arrêtez le mulet, elle va mourir !» C'était précisément cet instant-là qu'ils avaient voulu éviter et auquel ils voulaient se dérober. Le frère prit Haïdé dans ses bras, la secoua, lui parla, mais elle ne répondit pas. Elle venait de rendre le dernier soupir. Sania et Gisèle, est-ce qu'il arrive souvent qu'une femme meure à cause des droits et des prescriptions absurdes qui peuvent exister dans la société albanaise ou la société de la Kosovo à propos des femmes ? Parce que vous disiez tout à l'heure, elle peut mourir assassinée parce qu'elle a soi-disant trompé son mari, elle peut mourir parce qu'on l'emmène de force dans un mariage. Enfin,
oui, mais
enfin,
il ne faut pas exagérer quand même. Parce qu'actuellement, cette nouvelle donc là, qui se passe au début du siècle.
Écrit par Matt Correction, oui. Peut-être le préciser, on ne l'a pas dit tout à l'heure.
Ce n'est plus du tout actuel, disons, ce n'est plus possible actuellement. Non, actuellement, la seule chose dont une femme peut mourir, c'est à la naissance d'un enfant, ce qui est encore le cas assez couramment quand même en Kosovo par rapport à nos pays.
Mais pourquoi ? Parce que les conditions de santé sont si mauvaises que ça, qu'elles ne
permettent
pas ?
Il faut dire une chose, que vu la répression qu'il y a, au niveau des hôpitaux, il n'y a plus rien, il n'y a plus que des médecins serbes. Donc les femmes n'osent même plus aller accoucher à l'hôpital. À la maternité, une des plus grandes maternités de Kosovo, où on recevait d'habitude 400 patientes pour les accouchements, il n'y en a plus que 4 ou 5 actuellement. Donc elles accouchent à la maison. Il y a un retour donc des accouchements à la maison avec la répression. Donc évidemment, à la maison, quand on est loin de tout, il n'y a pas de téléphone. Dans les maisons de campagne, il y a très rarement le téléphone. En plus, les gens n'ont pas toujours de voiture, ils n'ont qu'un tracteur la plupart du temps. S'il arrive quelque chose, une hémorragie, il est évident que depuis les derniers mois de répression, les morts en cas d'accouchement doivent être beaucoup plus nombreuses.
Alors nous allons y venir. Oh, excusez-moi.
Je voulais dire un cas que ça lui est arrivé la première semaine après l'occupation de l'hôpital. Donc toutes les femmes, ils ont quitté l'hôpital. Ils n'ont plus eu la confiance au docteur, au médecin serbe. Alors la première semaine, elle était morte, une maman de 6 enfants qu'elle était accouchée à la maison. Et c'était triste. Donc, ça arrive maintenant, ces derniers jours, assez souvent, mais on parle tellement que... Et puis, on ne fait rien.
Voilà.
Alors, peut-être juste avant de, effectivement, parler de ce qui se passe aujourd'hui, parce que c'est évidemment une urgence, on pourrait peut-être juste conclure sur cette partie littéraire en évoquant comment se fait-il qu'on a passé comme ça, on a pu conserver un certain nombre de ces traditions encore vivantes aujourd'hui. Parce que malgré tout, la Yougoslavie est un pays qui a soi-disant choisi le socialisme, qui implique en tout cas des notions d'égalité, par exemple. Comment se fait-il que le gouvernement ne se soit pas plus battu pour l'égalité des hommes et des femmes ? Et si jamais il l'a fait, quel obstacle y a-t-il à la non-réalisation de cette avance de l'égalité entre les hommes et les femmes, ne serait-ce que du respect des personnes ?
En Yougoslavie, le gouvernement au niveau de la Kosovo ne s'est jamais battu pour l'égalité des hommes et des femmes. La loi, les lois figuraient, dans la loi il y avait l'égalité. Mais le gouvernement yougoslave savait très bien qu'elle n'existait pas dans les faits. Mais il a toujours tenu à maintenir le peuple albanais dans une espèce d'arriération sociale, économique et même culturelle à une certaine époque et encore maintenant. Surtout maintenant où on enlève les droits culturels des Albanais. Donc, à la limite, ça arrangeait un petit peu, même certainement, le gouvernement serbe, cette arriération. Parce qu'on pouvait montrer du doigt les Albanais. On avait des choses à leur reprocher. Ça arrangeait tout le monde. Et on n'a rien fait concrètement pour faire évoluer cette situation favorablement en Yougoslavie.
Est-ce que la Kosovo est la seule province musulmane de la Yougoslavie et la seule république ?
Non, il y a la Bosnie-Herzégovine qui contient énormément de musulmans aussi. Mais ces musulmans sont d'origine ou bien serbe ou bien croate. Et actuellement, on les a regroupés sous une nationalité totalement artificielle, nationalité musulmane, ce qui ne veut absolument rien dire. C'est bien clair.
Mais est-ce que ce statut de la femme en Kosovo est propre à la Kosovo ou est-ce qu'on le retrouve dans d'autres régions de Yougoslavie, par exemple ?
Non, il n'est pas propre à la Kosovo. On pense souvent qu'il est plutôt propre en fait, à la région méditerranéenne. Il faut dire les choses comme elles sont. Et si vous allez en Serbie, il est vrai que dans les campagnes, les femmes aussi travaillent énormément. Sont exploitées aussi en Serbie. Pas dans les villes, évidemment. Je veux dire, c'est une chose quand même qui est commune au territoire méditerranéen. Parce que si vous allez en Grèce, c'est aussi le même phénomène. Même en Italie du Sud ou en Sicile. Donc, il ne faut pas du tout croire que c'est quelque chose qui est particulier à la Kosovo ou aux Albanais. C'est faux.
Ces questions sont les suivantes. 1. Pour quelle raison le jour des événements, c'est-à-dire le 1er avril, 12 lits supplémentaires étaient-ils d'ores et déjà dressés dans le département de chirurgie ? 2. Sur l'ordre de qui, ce même jour, des ambulances ont-elles fait la navette entre Pristina et Ferizac ? Et à quelle fin ? 3. Et c'est là le point capital, pour quelle raison et de quelle manière le registre des entrées portant la liste des personnes soignées en date du 1er avril a-t-il disparu ? Vous tirez de ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. De nouveau, le délégué se pencha en avant, en appui sur ses deux mains, comme pour plaquer contre la table quelque chose qu'il voulait lui échapper. J'attends de vous tous la réponse à ces questions. Mais c'est plus spécialement à vous, docteur Skelly, qu'il appartient de me la donner. Continua-t-il en se tournant vers le chirurgien.